Y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107 FM.
Décollage immédiat
pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Nous sommes le mercredi 23 février, il est 8h30 au programme de cette matinale. Ah mais j'allais l'oublier, c'est vrai que quand même complètement fou ce matin. Tout part à volo, Corto, salut.
Bah salut à toi, merci de ne pas m'oublier. Bonjour à tous et à toutes et bonjour à notre invité mystère.
Ça arrive, c'est tellement cool le programme de cette matinale que je t'en oublie. Excuse-moi, au programme de cette matinale, nous serons par téléphone avec Véronique Proust dans un instant. Elle est historienne et depuis quelques jours et jusqu'au 1er avril à l'espace de l'Office de la Culture Gévaudan Destination, la ville de Marvejols accueille l'exposition Les Semelles de Vent, Lozère, une histoire des migrations. C'est proposé par les archives départementales de la Lozère, ça a l'air passionnant, on en parle avec elle dans un instant. C'est lundi, retour en début de semaine, non je déconne, mais quel plaisir de le réentendre à l'antenne en direct, notre chantre de l'histoire, notre caution crédibilité. Il est professeur au Grand Collège La Sorbonne Saint-Élymy, Raphaël, bonjour.
Bonjour à tous.
Histoire brève, un mercredi.
Oui, il n'y a plus de saison pour monsieur.
Non. T'es surtout en vacances en fait.
Oui aussi. Ouais.
De quoi ça cause?
Ben, nous allons faire la suite de notre série que nous avons entamée il y a de ça quelques mois sur les morts insolites de l'histoire. Aujourd'hui, l'époque moderne.
J'ai hâte, ce sera tout à l'heure. S'en suivra un reportage réalisé par nos stagiaires la semaine dernière sur le festival Contes et Rencontres et le spectacle de La Danse des Sorcières. Et enfin, nous irons chez Siméon Lefebvre qui est éleveur de brebis à Ventalon en Cévennes et ce grâce à Anne qui a pris du son, on l'en remercie. Il y aura de la musique comme d'hab, du jazz aujourd'hui et on commence évidemment par l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
Le chiffre du jour, 150 000 euros, c'est le prix par département pour voir passer la flamme olympique en 2024. Enfin, 150 000. 180 000 avec les taxes, bah oui, t'as vu le prix de l'essence. Alors qu'une dizaine de départements, dont les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, l'Indre-et-Loire notamment, n'en veulent pas, nous verrons pour la Lozère, ça commence à faire beaucoup de polémiques pour les Jeux Olympiques et pour le sport en général. 180 000 euros alors que tu as des petits briquets électriques à deux balles chez ton marchand de journaux. Je cite le député, le président du conseil départemental de Haute-Vienne, Jean-Claude Lebois. Il s'agit de 180 000 euros pour une seule journée et en plus, c'est sans compter le coût des animations, c'est juste exorbitant, tu m'étonnes. Ceux qui ont accepté de voir passer la flamme espèrent des retombées économiques. Mais on a bien du mal à voir lesquels. Sans doute que ça va donner envie aux gens d'aller acheter un briquet à deux balles chez le marchand de journaux. Moi, j'ai du mal à me dire que des gens vont aller voir quelqu'un courir avec une flamme. Mais enfin, si ça peut rendre les gens heureux et amener la paix dans le monde, pourquoi pas? Rappelons aussi que pour accueillir le Tour de France, une ville devait verser à l'organisateur Amaury Sport Organisation 65 000 euros pour accueillir le départ d'une étape, 110 000 euros pour l'arrivée, 160 000 euros pour les deux en 2021. Ça commence à faire beaucoup de pognon. Mais il n'y a rien d'autre à faire avec tout cet argent. Et au fait, c'est quand Paris 2024?
Bah, j'imagine que c'est en 2024.
Ouais, ça y est, je l'ai réveillé.
Là, allez, c'est le blanc dans les 4.
On se retrouve dans un instant avec Véronique Proust. On écoute d'abord Dave Brubeck, Take 5. Un extrait, c'est parti. Thank you. un extrait de Tech 5 par Dave Brubeck. Nous sommes par téléphone avec Véronique Proust. Bonjour.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ?
Oui, 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 je vous entends très bien.
Eh ben, nous aussi, vous êtes historienne. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Jusqu'au 1er avril, à l'espace de l'Office de la Culture Gévaudan Destination, la ville de Marvejols accueille l'exposition « Les semelles de vent, Lozère, une histoire des migrations ». C'est proposé par les archives départementales de Lozère. Le sujet est plus que jamais important à aborder. L'histoire est souvent à l'honneur à Marvejols. Là, l'expo a l'air passionnante. D'où est partie l'idée ?
Alors l'idée en fait c'est bah d'abord en fait c'est Sophie Pantel qui avait donné en fait un petit peu un axe d'idée pour que on fouille les archives départementales et qu'on trouve en fait donc des informations qui concernent toutes les personnes qui sont passées en Lozère, parce que la Lozère a toujours été une terre d'accueil mais surtout une terre de passage. Et en tant qu'historienne d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant parce que nous possédons donc à Marvejols, Porte du Soubéran, une collection donc d'art néolithique et même paléolithique. Mm-hmm. Et on a donc des éléments qui nous disent que déjà donc à l'époque néolithique, on avait donc des personnes qui venaient de la Méditerranée, du bassin méditerranéen, et qui remontaient, voyez-vous, vers l'Auvergne et qui traversaient les Cévennes et qui arrivaient en Lozère. Mmh. Alors cette idée-là, si vous voulez, a permis de trouver donc un certain nombre de documents. Et puis donc toute l'équipe du commissariat d'exposition, les archivistes en fait, les archives de départementales, avait, me semble-t-il, déjà signalé à plusieurs reprises qu'il y avait des documents intéressants qui permettaient de regrouper un certain nombre d'informations sur les personnes de passage. Et d'ailleurs tout est dans le titre, se mêle devant. C'est-à-dire que certaines sont passées, certaines sont parties, d'autres sont revenues. Parfois, on n'a aucune trace des personnes qui sont passées. Il y a des populations, on sait qu'ils ont existé puisqu'on a des papiers, des sauf-conduits. En revanche, ils sont partis, ils sont jamais revenus, et donc voilà. Alors c'est une exposition pour ça qui est très intéressante et puis vraiment très émouvante. Mmh. Alors on apprend plein de trucs. On apprend par exemple donc au Moyen Âge, eh bien les routes dans les Cévennes et en Lozère étaient donc il n'y avait pas que là, hein, n'étaient absolument pas sécurisées. Donc c'était les seigneurs en fait donc qui se faisaient payer pour permettre en fait aux commerçants de pouvoir donc traverser les routes sans être attaqué par les brigands. Et c'est très intéressant parce que ça explique, si vous voulez, toute la construction des châteaux le long de la vallée du Lot. Voyez-vous, ils sont très haut perchés, au Villaret, à Chanac, à Grèze, etc. C'est pour pouvoir surveiller en fait les brigands qui attaquaient les commerçants. Alors ça, on a des papiers, on a des sauf-conduits qui datent donc de l'an 1200. Et puis on a évidemment donc des effets, si vous voulez, des faits historiques, c'est-à-dire le pape Urbain II qui appelle donc en fait à la croisade, mmh, et qui appelle également donc le pèlerinage. Et donc on voit, si vous voulez, cette ancienne voie romaine qui va se déployer à la faveur des pèlerinages et qui va faire que depuis la Bourgogne, eh bien les gens vont peut-être passer par la Lozère, ils passent par la Lozère, ils vont ensuite à Conques, et puis ils vont pratiquer la Via Tolosona. Alors après, c'est très intéressant parce que donc ces migrants sont ceux qui partent, qui fuient en fait. Alors ça, évidemment, malheureusement, c'est la réforme, ce sont les guerres de religion. Mm-hmm. Donc on a beaucoup de protestants en fait donc qui s'en vont et qui en fait vont traverser les Cévennes, qui vont laisser des traces de leur passage dans les Cévennes, parce que ce sont des gens qui vont faire du commerce du drap et qui vont à Nîmes et qui en fait vont rencontrer en fait donc les idées protestantes à Nîmes et les rapatrier en fait donc en Lozère. Et évidemment beaucoup de protestants vont se cacher, on a des traces en fait donc de leur passage. Et puis vous voyez, c'est comme ça, c'est tout le long du temps. Puis alors après, il y a eu des pestes. Alors ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a la peste de 1348, la fameuse peste noire qui a été épouvantable, qui pousse, si vous voulez, les villes à faire des passes sanitaires. C'est ça qui est très intéressant. Rien de nouveau sous le soleil. Donc on a toutes les villes fortifiées, et donc nous ici à Marvejols, on est bien placés pour savoir, qui commencent en fait à faire des portes et à faire donc des sauf-conduits pour passer ces portes-là, enfin des passeports. D'ailleurs, le mot passeport, on ne sait pas très bien d'où il vient. Est-ce que c'est le mot passer le port de Marseille pour tous les migrants qui venaient de Méditerranée et qui arrivaient à Marseille, ou est-ce qu'est passer la porte ? Voilà, le passeport. Ouais. Donc ça, tout ça, c'est très... Et ça, on le trouve dans les archives. Et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que dans cette exposition-là, c'est une exposition qui est scientifique, parce qu'il y a des preuves à l'appui. Vous voyez, il y a des papiers. Et on vous montre, voilà, à travers ces papiers, on a une histoire qui se construit.
Alors justement, comment vous avez bossé pour la mettre en place, cette expo, pour choisir, sélectionner les documents? Parce que si j'ai bien compris, on part à la découverte de 20 parcours de vie exceptionnels, c'est ça?
Oui, alors, c'est pas tout à fait ça. Ah. On part à la découverte, en fait, de la, de, des chemins de migrants qui ont laissé des traces ou qui n'en ont pas laissé. Donc ça, c'est très important. Donc on a des papiers du département et des archives qui nous permettent de découvrir des trucs incroyables sur donc la manière dont les locaux donc se ont accueilli donc par exemple au 19e siècle, il y a eu l'exode. Donc beaucoup de Lozériens sont partis donc dans les capitales pour trouver du travail et on s'est retrouvé avec un manque de main d'œuvre. Donc il se trouve que parallèlement en fait donc c'est l'exposition industrielle, enfin c'est le développement industriel et on a besoin ici dans le bassin de vie en fait de Lozère, de construire des usines. Donc on fait appel, si vous voulez, cette fois-ci, à des main-d'œuvre étrangères. Et on se retrouve donc avec donc, des papiers polonais, des papiers ukrainiens, des papiers, voilà, par exemple, on a 300 Chinois qui ont construit donc une des usines de Saint-Chély. On a pas de traces d'eux, par contre, vous voyez. Mais on sait qu'ils sont passés là parce qu'on a les papiers donc de l'usine de Saint-Chély. Donc ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, qui est moins représenté, en fait, dans l'exposition, mais qui est sous-jacent, et qui est très très bien expliqué dans le petit catalogue qui est vendu 5 euros, et qui est bourré d'informations, ce sont effectivement des familles de Lozériens, mais qui, eux, sont partis. Alors, ils sont partis, ça peut être donc aussi bien des personnes qui ont donc implanté des usines. Je pense par exemple à Samuel Aymar de Jabrin. Lui, il est parti de Marvejol et il est allé au Capitole de Toulouse et puis il a donc créé là-bas donc toute une famille donc d'industrie lainière, drapière et il a eu un rôle très important. Il a renfloué les dettes de plusieurs épargnants. Il a fait donc toute une politique bancaire. Il a fait un accroissement foncier. Donc il a eu effectivement, comme vous dites, une destinée. Mmh. On a les Seguin de Reignès qui étaient donc trois frères émigrés sous la Révolution et qui sont partis en fait donc pour fuir la Révolution. On a Henri Tessonnière qui était négociant, aventurier, qui est parti lui aussi et puis qui est revenu. Mais même il y a très longtemps, par exemple, on a Guillaume et Artaud Merle. Ils sont pèlerins de Terre Sainte. Alors ils vont partir en Terre Sainte à la demande du pape, donc voilà. Alors d'ailleurs c'est assez émouvant parce que ces fameux Merle, ils savent pas du tout s'ils vont revenir parce que les routes sont tellement terribles au Moyen-Âge que avant de partir, ils font leur testament. Ils font leur testament et l'évêque demande, leur dit « Ah mais si vous faites votre testament, vous me donnez donc la moitié de tous vos territoires » et c'est comme ça aussi que l'évêque demande va agrandir son territoire. Mmh. Vous voyez, donc on a des tas de choses qui sont expliquées comme ça dans l'exposition et qui, en fait, à travers les trésors des archives départementales, nous permettent de comprendre notre histoire.
Mmh. On est pendu à vos lèvres, ça a vraiment l'air passionnant et alors ça va jusqu'aux années 80, c'est ça? Pourquoi s'être arrêté en 1980?
D'abord parce que la population, enfin les migrations se sont un peu stagnées à cette époque-là. Mmh. Et puis donc on n'a pas tous les documents d'archives en fait. C'est compliqué si vous voulez parce que si on parle à partir des années 80, on va parler donc des personnes qui sont encore vivantes. Mmh. Donc pour des raisons, si vous voulez, donc de respect de la vie personnelle, donc des personnes qui sont encore là, on a choisi en fait de s'arrêter là. Et puis aussi parce que les documents étaient moins intéressants, si vous voulez. Et donc on a préféré donc se donner une date butoir pour s'arrêter là. Mais vous voyez, en même temps, c'est très paradoxal parce que l'autre jour, il y avait une famille de Laotien, qui sont venus. Et donc je vais vers eux et je leur dis bonjour, bienvenue. Vous voulez voir l'expo et vous habitez où? Oh, on habite Orléans. Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait donc une communauté de là aussi à Montroda. On les voyait sur le marché vendre leur petite cuisine. Là, c'était formidable. Puis ils ont disparu. Tout d'un coup, ils ont disparu. Et là, cette famille, eh bien, c'était en fait la mère qui est venue avec son mari et ses trois enfants pour leur montrer Marvejol en leur disant, voilà, je voulais vous dire, j'étais à l'école de Montroda et là, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Mmh. Et je lui dis, mais pourquoi vous êtes partie? Mais parce qu'en fait, la communauté laotienne à laquelle j'appartiens était plus importante à Orléans, alors j'ai rejoint les miens. Voilà. Mais on n'a pas de traces dans les archives de ces gens-là, vous voyez. Alors c'est quand même, voilà, c'est un peu à la gloire des archives départementales, si vous voulez, parce que si on ne garde pas la mémoire des gens qui passent, ces fameuses semelles de vent, on n'a pas notre histoire. C'est fondamental, la mémoire.
J'allais vous demander ce qui vous a le plus touché ou surprise dans cette expo.
Tout, si vous voulez, tout. Mais je vais vous donner, par exemple, une petite anecdote. On dispose donc les documents donc dans les vitrines, et puis je prends en fait donc un document qui est en fait donc un dossier, mais c'était pas un dossier, c'était, si vous voulez, comme une espèce de copie double scolaire dans lequel il y avait marqué dans une écriture très 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 belle, si vous voulez, très archivistique, dossier Savic. Donc c'était le nom en fait d'un couple de Tchécoslovaques qui venait ici. Donc je prends la feuille, je me débrouille donc pour la mettre bien en valeur dans la vitrine, et en prenant la feuille, pof, tombe à mes pieds, je ne sais pas, au moins une dizaine de cartes d'identité, voyez. Et en fait, c'était pas du tout des cartes d'identité, c'était des permis de travail. Et c'était incroyable. Rien que ce couple-là, ils avaient donc chacun, dans chacun de leurs dossiers, 10 permis de travail, parce que en fait, c'était des permis de travail ou des permis de séjour qui étaient limités dans le temps. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit, voilà, vous avez une feuille qui vous permet donc de travailler ici pendant 3 mois, pendant 4 mois. Et après, ils partaient, puis après, ils revenaient. Ça dépendait des chantiers. Vous voyez? Et je me suis dit, mais c'est incroyable le nombre de papiers qu'on peut faire pour toutes ces personnes qui viennent, en fait, prêter main forte pour l'économie de la région.
Et finalement, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours aujourd'hui et de se réattacher à l'histoire quand on voit un peu la récupération que certaines font de la migration.
Bah oui, bah bien sûr, bien sûr. Alors ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, du coup, moi, je m'attache beaucoup à travailler avec les collèges et les lycées. Et donc on va avoir donc je m'en fais une joie, on va donc travailler avec le lycée Saint-Joseph notamment, donc avec les professeurs et avec les élèves, avec un dossier pédagogique en plus qui a été magnifiquement fait par Pauline Chandry et toute son équipe qui dirige en fait donc les archives départementales de Lozère. Et en fait, à partir de là, il va y avoir donc des sujets sur les classes de philo, sur justement le statut du sans-papier, les accords Schengen, les migrations et l'immigration, finalement, où est-ce qu'on en est. C'est voilà, tout ça, c'est quand même très intéressant. Et si vous voulez, quand vous allez vous promener dans une des parties donc du cimetière de Marvejols, ce que j'ai fait l'autre jour, il faisait tellement beau, j'ai vu en fait des tombes avec des croix orthodoxes, vous voyez. Et ça, bon, on le voit pas, mais enfin, il y a quand même des personnes qui étaient donc orthodoxes, qui étaient russes, qui étaient donc d'Europe centrale, qui sont venues, qui se sont fait enterrer ici, vous voyez. Et ça, je pense qu'à mon avis, donc les jeunes doivent savoir que leur patrimoine et leur mémoire, il faut qu'ils se l'approprient, et ça depuis le lycée, en fait, depuis l'école.
C'est tellement important. En tout cas, ça a l'air passionnant, enrichissant. Véronique Proust, merci.
Merci.
Vous êtes historienne et vous proposez d'ailleurs une présentation de l'exposition le samedi 26 février de 11h à 15h. Les semelles de vent, Lozère, une histoire des migrations. C'est jusqu'au 1er avril à l'espace de l'Office de Culture Gévaudan, destination. Raphaël, ça va?
Oui, ça va.
Toi qui es historien, ça fait écho. Hein.
Oui, ça fait écho, oui. L'histoire des migrations, la Lozère qui est finalement une terre de passage, comme elle a dit, est beaucoup moins enclavée finalement que ce qu'on pouvait le croire au Moyen-Âge notamment.
Histoire brève.
Et oui,
histoire. Bah allez, si t'es prêt, mon corto, tu sélectionnes le petit bouton, le jingle, et on y va, jingle, histoire brève.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Bonjour monsieur de Paris.
Bonjour monsieur Coudert.
Ça y est, j'ai reçu dernièrement une nouvelle convocation de votre part de la façon originale dont vous seul avez le secret. Chers auditeurs, sachez que lorsque monsieur de Paris vous convoque pour l'une de ses émissions, tout un protocole se met en place. Vous recevez d'abord un courrier en recommandé 2 semaines avant votre intervention, écrit en lettres d'or sur un parchemin, un pot de veau de 3 mois, quand la peau est encore tendre et bien blanche pour que le doré des lettrines ressorte bien. Cette même préconvocation est écrite en latin médiéval et commence invariablement par ces mots. In nomine domini nostri, benedictus de Parisis, amen. Je traduis, au nom de notre Seigneur, Benoît de Paris, amen. Puis vient de façon assez sobre et condensée l'heure, la date et le motif de cette préconvocation, toujours en latin. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que tant de gens ne répondent pas à vos invitations. Ne serait-ce pas plus simple de les faire en français?
J'avoue.
Bon, c'est vrai, c'est moins chic, mais il faut parfois savoir faire des concessions.
Et puis j'étale ma culture comme ça, tu vois.
Tout à fait, vous avez raison. Si vous ne répondez pas dans la journée à cette préconvocation, vous êtes généralement sanctionné par divers biais, comme celui de la gendarmerie, par exemple, qui dresse ainsi des contraventions aux cibles de Monsieur de Paris. Autrement dit, si un jour vous avez reçu un PV sans trop comprendre pourquoi, désormais vous savez. Une fois cette première étape passée, vous recevez une vraie convocation portée à main propre par un livreur nain en Vespa qui traverse nos contrées été comme hiver vêtu en garde suisse du Vatican. Alors là, j'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi ce coursier devait être un nain. Et jamais le même en plus. Monsieur de Paris, une explication peut-être?
Absolument aucune.
Oh, bon c'est, cette fois vous recevez une lettre cachetée en fait, fermée par un seau qui comporte à Sénestre une bière belge et à Dextre une bouteille de vin de Gabali qui surplombe votre devise « Fluctuat nec mergitur », il flotte et ne coule pas.
Qui est entre autres la devise de
pas
Paris.
De doute, voilà. Mais pas de doute, c'est vos armoiries puisque vous faites référence à vos origines, à votre évidemment. Terre d'adoption et à la devise de Paris, tout à fait. Vous décachetez le sésame et vous découvrez alors la liste des exigences de la station qui vous permettra de passer en direct aux côtés de Monseigneur de Paris. Au bas du courrier, vous trouvez le rappel de la date et de l'heure de votre convocation écrite en lettres de sang. Après analyse, rassurez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas le sang de Monsieur de Paris qui est ici utilisé, mais celui de Cortot. C'est pour ça qu'il est si pâle, le pauvre garçon. Enfin, le coursier repart en chantant un célèbre opéra de Wagner et en marche arrière, toujours sur sa Vespa. Il est dit que le bougre ne doit jamais vous tourner le dos. Une fois ce protocole terminé, vous savez que vous êtes attendu à Radio Bartas. Si vous avez reçu les mêmes lettres, un conseil, gardez-les, il paraît qu'un marché s'ouvre sur eBay. Bref, sur la dernière lettre que j'ai reçue de vous, il était écrit que je devais vous parler de la suite des morts insolites de l'histoire. Les dernières fois, nous avions parlé de ces grands personnages emportés au firmament de leur vie, par de l'eau croupie ou des linteaux de porte trop basses. Vous aviez d'ailleurs été plutôt brillant, puisque vous aviez répondu à deux questions sur les trois qui étaient posées, ce qui porte votre total avec l'avant-dernière fois à 2 sur 6. Presque la moyenne.
Ouais, bah on va essayer de faire mieux aujourd'hui. Hein.
Mais je n'attends pas moins. Poursuivons donc nos pérégrinations historiques et ce flirt avec la mort que des rois provoquent en faisant tout et n'importe quoi. Prenons les cas de Maximilien Ier de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui rencontra la faucheuse, hélas pour lui, en 1519, et celui de ce roi de Suède du XVIIIe siècle, Adolphe Frédéric, mort en 1771. La cause de leur décès est quelque peu similaire et a trait à l'un des 7 péchés capitaux. Mais d'après vous, lequel?
Peut-être la... j'hésite entre deux. La gourmandise.
Je vous fais des propositions.
Ah.
La paresse. Terrassés par la fatigue après une partie de chasse, ils se sont endormis dans une écurie, se sont morts piétinés par leur propre monture. La gourmandise. Gros mangeurs, ils ont tous les deux succombé à leur grand appétit après un gargantuesque repas. La luxure, bon mais là je vous laisse imaginer la suite, il est un peu trop tôt pour rentrer à ce point-là dans les détails, même pour vous monsieur de Paris.
Mais le problème c'est que vous êtes tellement crédible en prof d'histoire que les trois sont possibles. Non, j'avais pensé à la gourmandise.
À la gourmandise Cortot, d'accord, avec la gourmandise.
C'est la gourmandise aussi. Ouais.
Gourmandise, oui, il s'agit bien du péché de gourmandise. Question subsidiaire, qu'a mangé avec excès vraisemblablement Maximilien Ier d'Habsbourg d'après vous? Il a fait une indigestion de champignons. 3 paniers de girolles, c'est bon, mais c'est trop. Une indigestion de melon, qui aurait d'ailleurs aussi causé la mort de son père Frédéric III 26 ans plus tôt. Une indigestion de chute de Bruxelles, comme quoi il y en a qui aiment vraiment ça.
J'adore ça en plus pour le coup. Mais du coup, ça a l'air tellement crédible là, qu'il a étudié son père 26 ans avant. Du coup,
donc le melon. Indigestion de melon.
Je me dis la même chose.
Ouais. Bah, vous avez raison. Vous êtes en forme.
Je suis en forme.
Oui, c'est le melon qui causa sa mort. En même temps, il est mort au mois de janvier. Voilà ce qui en coûtait à l'époque de manger des fruits hors saison. J'en reviens maintenant à ce roi de Suède.
Engagé en plus aujourd'hui. C'est fou.
J'en reviens maintenant à ce roi de Suède, Adolphe Frédéric, mort en 1771, le jour de Mardi Gras. Il aurait englouti avant d'entamer son jeûne du caviar accompagné d'une soupe au chou en entrée, puis du homard, du hareng et une choucroute. En dessert, il attendait encore avec impatience un samla, petite brioche fourrée à la crème et à la pâte d'amande, servie à cette époque-là dans une assiette creuse remplie de lait chaud. Les semlor se mangent traditionnellement ce jour-là en Suède. C'était a priori son péché mignon, il en aurait avalé pas moins de 14. Un peu barbouillé, à la fin de ce repas, il se rend dans sa chambre et meurt après un AVC causé par ce repas gargantuesque. Revenons en France, où les morts insolites ne manquent pas. Intéressons-nous maintenant à Henri II, roi de France de 1547 à 1559. Ce dernier succomba au lendemain d'un tournoi donné dans les rues de Paris. Au cours d'une joute qui l'oppose au comte de Montgomery, il est grièvement blessé par la lance de son adversaire, du jour qui dut un poil culpabiliser après coup. Pris en charge par le grand chirurgien de l'époque Ambroise Paré, il est maintenu en vie pendant 10 jours avant de trépasser. Ce dont se félicite d'ailleurs l'équipe médicale étant donné la gravité de ladite meurtrissure. Mais de quelle nature fut cette blessure ? Première proposition, la lance de Montgomery lui transperça la poitrine de part en part au niveau du poumon gauche et il mourut de faim car il ne pouvait plus s'alimenter. La lance de Montgomery lui sectionna la trachée et il survit autant de temps grâce à un valet qui soufflait dans une paille pour lui apporter de l'oxygène jour et nuit pendant 10 jours. La lance de Montgomery éclata sur l'armure de Henri et une écharde passa sous le homme du roi, entra par l'œil et ressortit au niveau de l'oreille. Les médecins et chirurgiens ne purent même pas l'opérer et le malheureux mourut d'atroces souffrances 10 jours plus tard avec un bout de bois toujours planté dans la tête.
Et je sais pas pourquoi j'ai la trachée dans la tête.
La trachée ?
Ouais.
Donc elle passe ouais, là et quelqu'un souffle dans la paille pour
le faire sourire. Ouais, je sais pas.
Corto ?
Moi je dirais peut-être la 1, parce que le coup de la trachée du valet qui souffle, ça fait un peu, je sais pas,
ouais,
fait,
c'est comédie. C'est dégueulasse en plus.
Bah ouais,
c'est vraiment des idées, monsieur de Perec. Non, c'est l'écharde qui rentre dans l'œil, c'est la troisième.
Un petit coup de mou, un petit coup de mou.
L'écharde qui rentre dans l'oreille, qui rentre dans l'œil, pardon, et qui ressort par l'oreille.
Bon. Ça fait mal.
Ça fait très mal. Hein. Je crains que ce soit bien donc cette troisième solution. Je n'ai jamais dit que toutes les réponses seraient drôles. J'ai dit insolite. En tout cas, c'est ce que vous avez demandé sur votre convocation. Insolite. Vous avez insisté sur les termes. Hein. Lettre de sang, surligné. Restons dans ce bon royaume de France et apesantissons-nous sur un cas célèbre, celui de Jean-Baptiste Lully, compositeur du roi de France Louis XIV et qui mourut en 1687 des suites d'une gangrène. La question est, à quoi est due cette gangrène ? Premièrement, alors qu'il jouait un morceau de flûte, un comparse lui tapa dans le dos amicalement. La flûte s'enfonça dans sa gorge et lui entailla méchamment la glotte. La blessure s'infecta et il mourut 2 semaines plus tard.
Vous êtes flippant quand même.
En voulant réaccorder un clavecin, il se pinça méchamment le majeur avec une des cordes. La blessure s'infecta et malgré l'amputation de son doigt, puis de sa main, puis de son bras, rien n'y fait. Et il est mort moins de 2 mois plus tard. Lors d'une répétition, il s'emporta contre ses musiciens et frappa du sol le bâton qui lui servait à battre la mesure. Malheureusement, ce faisant, il s'écrasa un orteil. La blessure s'infecta, mais il refusa l'imputation car il était bon danseur. La gangrène se propagea alors et il mourut 3 mois plus tard.
Allez, à l'instar de Bob Marley, je vais choisir l'orteil.
L'orteil.
Moi, le coup du piano, il me plaît bien.
Ouais, pour ton pianiste, hein, c'est sûr.
Et non, c'était bien l'orteil. C'est la troisième solution. Très bien, monsieur de Paris. 3 sur 4, je suis impressionné. Donc, c'était bien la troisième proposition. Pour la petite histoire, cette réputation coûta la vie à Lully était l'une de ses répétitions autour du Tédéum, qui devait être chanté peu de temps après par 150 musiciens pour aider le roi à guérir d'une fistule anale. Et voilà, je pense que nous avons là les meilleurs mots pour qualifier et brillamment conclure cette chronique. J'attends donc votre prochaine convocation pour poursuivre notre balade dans les couloirs du temps à la rencontre des morts les plus insolites de l'histoire.
Eh bien, je vous la donne à l'instant. Voici votre convocation en lettres d'or sur la peau de votre 3 mois pour lundi. Ça vous va ?
Oui. Je m'attendais pas à tant d'empressement. Je vais voir ce que je peux faire.
N'empêche que vous êtes vraiment flippant quand même. Il y a des trucs vrais, mais il y a des trucs qui sortent de votre tête. Et ça, c'est flippant. Merci beaucoup, Raphaël.
De rien.
Et auditeurs, auditrices, on reviendra très vite pour clin d'œil à l'histoire. C'est vrai que ce début d'année a été un tout petit peu compliqué, mais promis, on y est. Et est-ce qu'on fera la Gestapo, l'histoire de la Gestapo ?
Voilà, les polices politiques dans les années 30.
Allez, ça arrive bientôt. Et j'avance tout doucement sur vos histoires brefs qui sont mises à jour sur le site internet de Radio Bartas. Évidemment, on se retrouve dans un instant avec 2 reportages, mais on écoute d'abord All of Me, ici la version de Billie Holiday.
All of me, can't you see? left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Billie Holiday, j'ai été très surpris par Monsieur Couder qui me faisait une réflexion somme toute très intéressante. Billie Holiday, All of Me. Nos stagiaires se sont rendus à Saint-Laurent-de-Trèves et à Saint-Étienne-Vallée-Française la semaine dernière au festival Contes et Rencontres pour voir le spectacle La Danse des Sorcières. Écoutons ceux qui nous ont ramenés. Nos stagiaires, c'est Naïs et Ellie.
J'ai rencontré une sorcière ou un ogre ?
Non. Non, mais déjà une voyante, avec un jeu de hasard.
Bah dans les contes, oui. Mais dans la vraie vie, non.
Je ne sais pas vraiment, peut-être que c'était le cas. Je ne sais pas si c'était des vraies sorcières ou des vrais ogres. En tout cas, ils n'en avaient pas vraiment l'aspect, quoi. Mais peut-être qu'on a tous dans nous un ogre, une sorcière. Moi, je sais que quand on me met devant un plat très succulent, je deviens un peu un ogre. Et quand je suis face un petit peu à mes faiblesses, je deviens un petit peu une sorcière des fois. Et il vaut mieux connaître un petit peu cette nature qu'on a dedans et malgré tout l'aimer. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire avec ce spectacle. J'essaye de mettre les personnages un peu méchants sous un angle qui les attendrit un petit peu et qui les rend vulnérables. Et aussi parce que ben, finalement, je les aime aussi. J'aime être avec eux parce qu'ils sont aussi dans moi, je pense.
Non.
T'es sûr de ça?
Peut-être un chat noir dans ma vie. Peut-être.
Vous avez déjà eu l'occasion d'écouter des conteurs ou des conteuses venir raconter des contes comme ça?
Mon école, mon ancienne école, Vialas.
Oui, moi souvent, parce qu'avant tous les ans, j'allais à un festival à Mirepoix et il y a plein de spectacles comme ça qui, du coup, avaient tous les ans avant.
Non, mais j'ai un livre où il y a un CD et j'écoute le CD en même temps que je regarde les images de lui.
Une fois, si, il y avait eu un truc ici à l'école, dans le préau, il y avait deux personnes qui nous avaient raconté des histoires. C'était sur la thématique de l'ours et ça m'avait bien plu.
Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont fait peur?
Ah non, moi ça m'a pas vraiment fait peur.
Non, il est plutôt rigolo. Vous avez plutôt rigolé, je pense, non ?
Oui, oui, tout le monde a plutôt rigolé. Oui, c'était marrant.
Ça m'a fait rigoler.
Alors, je suis Luca Marchesini, on est à la médiathèque de Florac et je viens tout juste de terminer mon spectacle La danse des sorcières devant un public assez conséquent et très attentif, très réactif et très captif et vraiment très interactif.
C'est un spectacle sur des monstres, des nains, des sorcières, des ogres, raconté par un conteur qui c'était vraiment super. Et il y avait de l'humour aussi, mais et c'était très bien conté.
Et juste au moment où le chat noir s'est glissé derrière la porte, celle-ci a commencé à s'ouvrir. Et vous savez très bien que dans n'importe quel conte du monde, une porte d'une maison en bois, au milieu d'un bois qui s'ouvre, ça fait toujours... Dame Pépine, rentrez, je vous attendais.
Ça parlait d'histoires, de sorcières, d'ordre, de lutins.
Est-ce que ça t'a fait peur ?
Non.
Même pas peur. Tu connaissais ces histoires ?
Je connaissais pas cette histoire. C'est la première fois que je les entends.
Cochon a fait tellement fort que du cochon est sorti. La poule. Elle a regardé la poule droit dans les yeux et lui a fait assemblage du costard. Meli meli stikisto malingut. Et uno, due, tre. Et la poule a fait.
Ces contes me viennent principalement de la lecture. En fait, j'ai pas trop reçu d'histoires racontées oralement dans ma jeunesse, mais j'ai découvert le conte en Andalousie, à Grenade, et ça m'a tellement captivé que je me suis plongé dedans. Après, c'est vrai que, par contre, j'étais très imprégné de la culture un petit peu de superstition italienne. En fait, c'est vrai que ça m'a toujours questionné. Donc ça, j'ai pas eu besoin de le lire, quoi. Je l'ai vraiment reçu de manière inconsciente et sous-jacente dans le tissu du quotidien, quoi. J'ai appris principalement en Espagne au début, quand j'habitais en Andalousie, et ensuite en France avec les conteurs de France avec qui j'ai travaillé. J'ai beaucoup appris d'un conteur qui s'appelle Serge Valentin, que j'admire beaucoup. Et puis j'ai fait des stages avec Philippe Cizère, Catherine Zarkat, Kamel Guenoun. C'est des gens qui m'ont transmis énormément de choses, mais c'est vrai que ça, c'était plus au niveau de la théorie. Après, sur la présence sur scène, je la dois surtout au travail qu'on a fait en Andalousie avec le théâtre d'improvisation, où avec un groupe d'autres acteurs, on a fait beaucoup d'improvisation, on avait une ligue de matchs d'impro. Et ça, pour moi, c'était vraiment l'initiation à la scène de manière un peu sauvage et que j'ai ensuite ramené dans le conte, quoi.
Bonne nuit.
Oui, c'est surprenant. Tiens, d'ailleurs, ouais, remets-nous en antenne, ce sera mieux sans écho. Merci beaucoup. Bah oui, on vous séquestre, monsieur Coudert.
Oui, je vois ça, oui. Voilà, oui. Jusqu'à lundi.
Ça faisait tellement longtemps que vous n'étiez pas venu. Merci beaucoup à Naïs et à Ellie pour leur reportage. Grâce à Anne, nous étions par procuration chez Siméon Lefebvre le week-end dernier. La conf déconfine le salon de l'agriculture et Siméon, lui, est à Ventalon en Cévennes. Il est éleveur de brebis. Et ça commence par compter les agneaux. C'est parti.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 agneaux là.
Et le premier, l'aîné, il y a 15
jours. Il y a 13 jours.
13 jours. Et le dernier qui est né.
Aujourd'hui. Ce matin.
Et t'en attends combien encore?
Alors, l'an dernier, j'en avais eu 60. Mais cette année, cet été, les brebis ont beaucoup souffert sur l'estive. Il y a eu des problèmes sanitaires et du coup le troupeau était en très mauvais état quand on a mis les béliers sur le troupeau. Donc je m'attends à... Et en fait la fertilité de la brebis dépend de son état de santé. Et du coup je m'attends à relativement peu d'agneaux cette année. Tant que j'arrive à faire mon renouvellement, c'est bien. Mais là j'en ai 13 et si j'en ai 30, je suis content, quoi.
Et la PAC, elle se base sur quoi pour subventionner les agneaux?
Il y a plusieurs primes différentes. Donc la rayole, c'est une race à faible effectif et du coup j'ai une petite prime pour maintenir cette race-là. Alors les conditions, c'est que chaque agneau soit validé par une commission d'inscription pour dire oui, c'est bien de la race rayole. Et sinon après c'est des primes sur les terrains, donc soit des droits à paiement de base, qui est une prime un peu forfaitaire on va dire, et puis il y a une autre prime pour une indemnité compensatoire de handicap naturel. En fait, le fait que dans les Cévennes on soit dans une zone sèche et dans une zone montagneuse, on a sur les 75 premiers hectares une prime qui nous aide à garder de l'élevage dans ces territoires-là. Vu qu'on n'est pas compétitif par rapport à un éleveur en plaine, eh ben on a une compensation de handicap naturel.
Elle est fixe, cette prime?
Elle est fixe année après année, oui. Bon, après, c'est, suivant les PAC, c'est susceptible d'évoluer. Ouais. En 2015, elle a été revalorisée lors de la dernière modification de PAC. Et ça ne devrait pas changer à la prochaine. Là.
Et ça permet de tenir?
Et ça permet de tenir. Ouais. Oui, c'est ça qui me fait vivre. Si j'avais pas des primes, je ferais ça vraiment que pour plaisir. Enfin, et du coup, j'arrêterais de faire ça parce qu'il faudrait que je bosse à côté.
Ah, c'est clair. Et les agneaux en eux-mêmes, tu les vends?
Alors pour l'instant, ouais, je suis plutôt dans une phase de constitution de troupeau, donc toutes les femelles je les garde. Et puis après, ben, les mâles, oui, ils sont soit destinés. Alors les jolis mâles, ils peuvent être sélectionnés pour être vendus toujours au sein du syndicat des éleveurs de brebis rayoles. On fait une sélection commune, une vente commune des béliers, pour que les béliers tournent d'élevage en élevage rayoles. Et puis sinon, les autres, ils vont à la boucherie. Mais moi, vu que je les engraisse pas, ils ont le temps de vivre plus d'une année avant d'être prêts.
Et c'est toi qui les abats ou tu les
en... Parfois oui, mais faut pas le dire.
Okay. Alors on coupe au montage.
Non, mais tu peux le laisser, je l'assume quand même. Et puis parfois, ça, je les amène à l'abattoir.
Et c'est où?
Alors, quand je les amène à l'abattoir, c'est quand elles sont en estive. Elles sont en estive en Aveyron et du coup, je vais à Sainte-Afrique. Donc, c'est pas la porte à côté.
Quand tu fais l'estive, quand tu les montes là-haut, tu les montes à pied?
Ouais. Ça met 7 ou 8 jours pour monter.
Et c'est agréable comme balade?
Parfois, oui. Parfois, quand c'est sous un épisode Sevenol pour le retour, c'est moins agréable.
Elles redescendent quand? À quelle période?
Début octobre.
Ouais, elle reste longtemps du coup.
Elle reste 4 mois là-haut.
Ah, ça va. Ouais. Et comment tu fais sur la route pour quand tu t'arrêtes, tu vas dans des fermes amies, tu vas où?
C'est camping et puis on installe des clôtures mobiles pour parquer le troupeau.
Ah cool. Et t'emmènes les chiens avec toi?
Ah bah oui, sans eux je peux rien faire. mon estive elle est sur le Coste Noir dans l'Aveyron. Donc d'ici on part, enfin pour ceux qui connaissent le coin, on passe le col de Jalcrest. On passe à Cassagnas, Bar des Cévennes, la Cante de l'Hospitalet, Aire de Côte, la montée de l'Aigoual, le sommet de l'Aigoual. On traverse tout l'Aigoual et on arrive à La Nuéjolle et puis Saint-André-de-Vézines. Je suis agriculteur à temps plein quoi, depuis 2 ans. La PAC l'an dernier j'ai touché 40 000 euros de prime de la PAC et les agneaux ça a dû être... J'ai même pas regardé, enfin j'ai pas encore ma compta de l'an dernier mais c'est 1 000 ou 2 000 euros. Donc c'est de l'argent de poche en fait. Dans mon système, il y a des systèmes qui valorisent beaucoup. Et après, enfin il y a des systèmes où ils vendent beaucoup plus d'agneaux. Mais c'est pas le chiffre d'affaires qui compte, c'est la différence vis-à-vis des charges. Donc du coup, moi j'ai peu de revenus, mais très peu de charges, et du coup, je peux réussir à une fois payé les charges et quelques investissements nécessaires, je peux avoir 1500 euros par mois, c'est tout à fait jouable. Si je reste seul, là, donc là j'ai une centaine d'adultes, si je reste seul, ça me suffit, et c'est... Enfin, avec 100 bêtes, on arrive à perdre régulièrement, donc pas forcément plus. Mon système qui est une garde quotidienne, bah, il est très contraignant, très astreignant en temps de travail. Et là, je suis en réflexion de créer un GAEC, donc une ferme avec 2 associés. Et pour se dire, bah, voilà, on bosse 5 jours par semaine, donc on a 2 jours pour souffler. Et 2 fois 5, ça fait 10 jours de travail, ça fait 7 jours de garde, plus 3 jours de commercialisation, de tout ce que j'arrive pas à faire aujourd'hui, quoi. Valorisation de la laine. Truc à explorer qui sera intéressant mais que je fais pas faute de temps actuellement.
Eh oui, faute de temps, le temps c'est précieux et on l'a pas vu passer ce matin. La ferme du Fontanel, c'est là-bas qu'est Siméon, c'est à Ventalon. Et Cévennes, sachez que le salon de l'agriculture se déconfine, c'est organisé par la Confédération Paysanne. Et ce 25 février, il sera à la ferme du Res, c'est-à-dire à Salgas, à côté de Vébron. Ce sera une visite de volailles, il y aura des discussions et des témoignages sur la grippe aviaire et la claustration des élevages en plein air. Voilà, c'est déjà la fin de cette matinale. On se retrouve lundi avec Fabien Moutet pour le festival Au Son qui se passera à Chanac début mars et avec Timothée de l'association Tête de Bloc. Je vais pas oublier de te remercier, Corto, merci.
Ah bah de rien, un plaisir.
J'ai failli oublier de te dire bonjour. Merci à toutes et tous de nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. On se quitte avec Nougaro. Le morceau c'est le jazz et la java. À lundi, ciao.
Quand le jazz est là, la java s'en, va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béa, un solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est là, La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la pastille et noircie à Harlem. Pour moi jazz et java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomen, la java dit gom. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gomen. Gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Yeah! donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos.